Donc voilà, bienvenue à chacun en tout cas hein, pour cette étude biblique, ce nouvel horaire 17h30 qu'on est en train de tester. On va voir si ça prend, si c'est un horaire possible pour les uns et les autres dans notre église. Et on va continuer aujourd'hui notre série d'études bibliques dans le livre des Actes, mais sous l'angle thématique. On n'a pas pris chapitre par chapitre, hein, vous l'aurez remarqué. Et donc pour l'étude du mois d'avril, et on est le 1er avril aujourd'hui, donc on commence... ce mois, et on va aborder la question de la croissance de l'Église. Alors bien sûr, s'il y a un livre dans lequel on voit la croissance de l'Église, c'est bien celui du livre des Actes, hein, qui nous raconte l'histoire de l'Église qu'on appelle des fois primitive, mais elle n'était pas si primitive que cela. Alors qu'entendons-nous par croissance de l'Église? Premièrement, il y a deux types de croissance. Il y a la croissance dans la foi. Des fois, on pourrait même dire croître ou grandir dans la maturité chrétienne, et la croissance aussi numérique. Certains parlent des fois de croissance en qualité, pour parler de la croissance spirituelle, la croissance dans la foi, et de croissance en quantité, pour parler de la croissance numérique, le fait que l'Église augmente de taille en nombre de personnes. Et ce que nous voyons en fait dans le livre des Actes, c'est que la quantité ne s'oppose pas à la qualité. Peut-être vous avez entendu, oui, mais nous, notre église, elle est peut-être pas grande, mais on a la qualité. Ou alors, on pense des fois que peut-être quand il y a un grand nombre, alors on perd en qualité. On voit absolument pas ce raisonnement-là dans le livre des Actes. On voit au contraire que, au fur et à mesure que l'église grandit dans la foi, en traversant différentes épreuves, elle grandit aussi en nombre. Et bien sûr, on va lire quelques références. Les deux vont de pair. La croissance numérique, d'ailleurs, est un des signes de la bonne santé d'une église. Et pour s'en convaincre, on va lire quelques références dans le livre des Actes. Je ne rappellerai pas forcément le contexte de chacune de ces références, mais voilà, je vais lire quelques références. Acte 2, verset 41. Donc ça, c'est après la Pentecôte. « Ceux qui acceptèrent sa parole... furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Donc là, on voit que les tout premiers disciples n'avaient pas honte de compter, hein, aussi, tout simplement, le nombre des convertis, et de se réjouir du grand nombre de personnes qui étaient venues au Seigneur. 3000 personnes. En acte 4, verset 4, on peut lire « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à environ 5000. Acte 6, verset 1. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes, etc., etc. Donc là, le nombre des disciples qui augmente, il s'agit bien d'une quantité numérique. Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Acte 16, verset 5, les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Et enfin, la dernière référence, acte 21, verset 20. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants, et tous sont zélés pour la loi. » Là encore une fois, un compte qui est fait, hein, combien de milliers de Juifs on compte parmi les croyants. Et là, je n'ai lu que quelques versets. On aurait pu en souligner encore d'autres qui mentionnent que le Seigneur ajoute chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés. Un refrain qui revient au moins deux fois dans le livre des Actes. Alors, comme tout groupe, l'Église est aussi un groupe humain, comme tout groupe humain, quand ça démarre, eh bien, en général, au départ, il y a une belle croissance, une belle dynamique. Et en fait, on pourrait dessiner cette courbe, hein, que vous avez déjà tous vue, elle est toute simple. On est là au départ d'une église. L'église grandit en nombre, etc. Elle est, là, c'est la période où il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de réunions d'évangélisation, etc. Et puis, on arrive à un moment donné à une certaine taille. Alors, des fois, on dit qu'en France, c'est à peu près 100 de personnes, hein, où tout d'un coup, l'église arrive un peu à un palier et se stabilise. Et le danger, c'est quoi? C'est qu'après, donc la croissance ralentit, et c'est qu'après, donc on a une église stable pendant un certain temps, mais si on ne fait rien, si on laisse tout simplement le groupe fonctionner par lui-même, sans redynamiser les choses, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être un déclin. Et ça, on observe ça dans tous les groupes. Hein. Alors, cette période-là, elle peut durer très longtemps, hein, la période d'une église stable. Mais soit on va vers le déclin, soit on redynamise. Et en fait, c'est quand on est vers ce moment-là, avant de stabiliser, que c'est bien de relancer une nouvelle dynamique pour continuer la croissance, etc., etc. Bon, c'est un schéma extrêmement simple, simplifié, mais il faut avoir ça en tête. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure, on va lire quelques passages. On voit que l'Église a été confrontée à des difficultés. Ces difficultés auraient pu même la faire décliner. Et au contraire, il y a quelque chose qui a permis que l'Église retrouve un nouveau souffle, soit redynamisée et que sa croissance continue. Qu'est-ce qui se passe aussi dans cette période-là, je l'ai un petit peu dit, de croissance, c'est que l'Église, elle est tournée vers les personnes qui n'en font pas partie. Hein, quand on démarre une Église à 10, dans un salon par exemple, comme c'était le cas de beaucoup d'Églises finalement, eh bien... on n'a pas vraiment le choix. Hein. On n'a pas envie de rester à 10 dans notre salon pendant plusieurs dizaines d'années. On est donc tourné vers les autres. On va chercher les personnes que le Seigneur appelle. On va être dans le témoignage, dans l'évangélisation, de façon intentionnelle et voulue. Pour ne pas décliner, il est important que l'Église reste centrée sur sa mission, que l'Église soit tournée vers les personnes qui n'en font pas encore partie. L'Église, c'est une communauté de croyants, on grandit ensemble, on est content de se voir, c'est super, on confesse notre foi en Jésus-Christ, mais dans même le mot même, communauté, qui est magnifique, hein, c'est très très beau de vivre la communauté, mais il contient un piège, ce mot, parce qu'on peut aussi parler de communauté dans le sens, c'est une communauté fermée sur elle-même, repliée sur elle-même. Quelqu'un a dit que si l'Église est une institution qui existe pour ceux qui n'en font pas partie. Gardons cela à l'esprit. Et effectivement, le mot communauté, d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement combat. Il veut combattre le communautarisme, le fait que des communautés se replient sur elles-mêmes, vivent en autarcie. Ce mot, à la fois, est très beau et il est piégeux. Parce qu'il pourrait nous laisser penser que la communauté est au complet, qu'elle se suffit à elle-même, et voilà, elle se suffit tout simplement à elle-même. C'est le communautarisme. C'est l'inverse du communautarisme que Jésus nous commande. Hein. Il dit « Allez hein, vers les nations pour faire d'autres disciples ». Ceux qui étudient justement l'histoire de la mission, les missiologues, ils parlent de mission centrifuge. C'est une mission qui part. Sans doute, on a besoin de l'Église, un petit peu comme camp de base, comme camp de départ. Et puis la mission, elle est centrifuge. Elle, hein, quand vous faites tourner une centrifugeuse, ça va sur les côtés comme ça. Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien allemand qui est mort en 1945, il est proche des évangéliques dans sa théologie. Il a dit ceci : l'Église n'est Église que lorsqu'elle est là pour les autres. Alors je vais vous lire maintenant une courte parabole qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Alors je ne suis pas dans les actes, vous allez me dire, mais il m'a semblé quand même important, avec ce thème de la croissance de l'Église, de lire cette courte parabole dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 29. Donc c'est très court, hein, 4 versets. Jésus dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, Nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Alors, cette courte parabole de Jésus nous dit un élément très important à propos de la croissance du royaume de Dieu. Et nous voyons en fait dans ce texte que la croissance, c'est quelque chose qui est donné, qui est un don. L'homme jette de la semence en terre, mais qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. C'est bien sûr l'image de la plante, on a tous eu l'occasion, j'imagine, un jour de planter une graine et puis de voir ce qu'elle devient. On n'a pas fait d'autre chose que planter, peut-être un petit peu arroser quand même, mais la plante pousse toute seule. Et au verset 28, on a ce petit mot, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Ce petit mot en grec, d'elle-même, c'est le mot qui a donné automatiquement, on pourrait dire en français, c'est automate en grec. On reconnaît la racine. D'elle-même, en elle-même, la graine a la capacité de grandir. Eh bien, Jésus utilise cette image pour parler du royaume de Dieu. En lui-même, il a ce principe de la croissance en lui-même. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut dire que la croissance, c'est quelque chose que Dieu donne ou qui est un principe du royaume de Dieu. Paul dira la même chose, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, verset 7, en utilisant d'ailleurs une image aussi agricole, en disant que c'est Dieu qui fait croître. Que Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors, peut-être vous allez dire, oui, mais ce n'est pas tout à fait de l'Église dont il est question dans ce texte, et c'est vrai, il s'agit du royaume de Dieu. Il y a cette autre parabole aussi que Jésus donne dans un autre évangile, que le royaume de Dieu est petit comme une graine de moutarde et puis qui va devenir un arbre. Encore une fois, là aussi cette idée que le royaume de Dieu grandit. C'est dans sa nature. Alors oui, ces textes ne parlent pas directement de l'Église, d'accord. Parce que le royaume de Dieu est une notion qui est plus large encore que l'Église. Mais on peut au moins dire que l'Église en fait partie. Et que du coup, l'Église, si le royaume de Dieu grandit, l'Église grandit aussi avec. Et certains ont affirmé que l'Église, c'est le peuple du royaume de Dieu. Je pense qu'on peut vraiment le dire bibliquement. Alors la croissance est donnée. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas à nous de la produire. Ce n'est pas à nous de produire la croissance dans une église, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, dans toutes les églises qui ont grandi, j'en connais pas, ou alors il y en a peu, malheureusement il y en a peut-être quand même, mais la plupart du discours qu'on entend, c'est « Merci Seigneur, parce que tu nous as donné la croissance. Certes, on a eu un témoignage, mais c'est, même ce témoignage, tu nous as donné de l'avoir, ce témoignage. » Et puis tu as fait grandir notre Église et on est reconnaissant envers le Seigneur. Jamais on va dire, ah oui, nous on est les meilleurs, c'est pour ça que notre Église a grandi, etc. Disons, ce serait vraiment de l'orgueil de penser comme ça, et en plus de l'ignorance par rapport à ce que la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait grandir. La croissance, c'est quelque chose que Dieu nous donne. On ne peut pas la produire. Pourtant, il existe des freins ou des obstacles à la croissance. Et plutôt que se dire on doit produire une croissance, il faut peut-être se dire est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que je peux peut-être enlever ces freins ou lever ces obstacles? Alors pour ça, on va observer ce qu'a vécu l'Église de Jérusalem. Donc c'est la vie de la première Église telle qu'elle nous est rapportée. On a une description magnifique dans Acte 2, versets 42 à 47. On ne va pas la relire maintenant, on aime beaucoup ce texte, on le lit souvent. On voit dans ce texte que la vie de l'Église était vraiment de bonne qualité. et que l'Église avait un bon témoignage, grandissait de jour en jour. Et quand on lit ça, on se dit, mais c'est presque idéal. C'est presque la vie d'Église idéale. On aimerait que toutes les vies d'Église ressemblent à celle-ci. Si on va un peu plus loin, les difficultés ne tardent pas à arriver. Et la première qui arrive, c'est la persécution. Les apôtres sont persécutés. Alors on pourrait croire que ça va mettre un coup dans l'aile à l'Église et que l'Église va cesser de grandir, d'autant plus que les apôtres étaient menacés et interdits de parler de Jésus. Mais vous le savez, l'Église continue quand même à bien se porter. D'ailleurs, dans la prière que fait l'Église, elle ne demande pas que la persécution s'arrête. Elle demande que chacun puisse avoir l'assurance d'annoncer la parole de Dieu malgré les interdictions, malgré les risques et les menaces. Et elle voit Dieu à l'œuvre. Vous savez ce texte où, après la prière, le sol tremble. Dieu manifeste ainsi sa présence et son soutien à son Église. Alors la persécution n'empêche pas, n'est pas un obstacle à la croissance de l'Église. C'est déjà une première chose qu'on peut remarquer. N'empêche pas l'Évangile de se répandre. Alors si la persécution n'empêche pas l'Église de grandir, on pourrait se dire, rien alors ne pourra empêcher l'Église de grandir. Et pourtant, un problème quand même arrive. Et là, on va reprendre le livre des Actes, et je vous lis juste Actes 4, verset 32. C'est un des versets aussi où il est question de la croissance de l'Église, en tout cas la foule, en tout cas d'un nombre important. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et là, après, on a la description du partage de la première communauté à Jérusalem. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun, etc. Donc on est dans un contexte plutôt positif, mais un problème grave arrive. Vous savez, juste quelques versets après, Ananias et Saphira mentent. Et Dieu intervient de façon radicale en faisant mourir Ananias et Saphira. Face à ce péché d'Ananias et Saphira, l'intervention de Dieu était telle qu'aucun croyant, suite à cela, n'osait se joindre à l'Église. Et pourtant, cela n'empêchait pas que des personnes se convertissaient. Je vous lis juste la conclusion de ce récit, Actes 5, versets 11 à 14. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Donc voilà un problème qui aurait pu menacer l'Église et empêcher son développement. Imaginons un peu que ce mensonge se soit répandu, que d'autres aient aussi eu la même idée de manquer d'honnêteté, d'être fourbe, on pourrait dire, comme Ananias et Saphira l'ont été. Mais Dieu intervient, il apporte une solution, alors effectivement qui est très très dure et très radicale. Mais Luc prend soin de nous montrer qu'après cela, la croissance revient. Le nombre des croyants, de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Alors que l'Église grandit toujours, acte 6, verset 1, à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Voilà encore un autre problème. Tout va bien, la croissance est là, le nombre des disciples augmente, et il y a les hellénistes qui murmurent contre les Hébreux, etc., pour des questions d'injustice au niveau de la distribution des repas. Vous savez comment ce problème est résolu. Les apôtres trouvent une solution en choisissant avec l'assemblée des responsables pour distribuer la nourriture de façon équitable et garder un temps important pour la prière et l'enseignement de la parole de Dieu. C'est donc une bonne organisation qui permet aux apôtres d'être libérés pour leur ministère. Et c'est une solution qui maintient également, et c'est très important, la solidarité dans l'Église. Une fois ce problème de la mauvaise organisation, on pourrait dire, réglé, la croissance revient. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Alors c'est quand même curieux, parce que par deux fois déjà, on a remarqué que la croissance est là, il y a quelque chose qui pourrait être un obstacle à cette croissance, qui est un obstacle à cette croissance, le péché d'Ananias et Saphira. Dans le cas là d'Acte 6, on ne peut pas vraiment dire, je ne sais pas si on peut dire que c'est un péché, je ne pense pas, c'était un manque d'organisation. Et le problème trouve une solution, et ensuite Luc précise que la croissance revient. Donc déjà par deux fois, on a ce schéma-là, problème, solution, croissance. Il y a un troisième exemple qui vient confirmer ce principe. C'est dans Acte 11. Alors, c'est un petit peu plus subtil et on sort du cadre de l'église de Jérusalem, mais on reste quand même dans ce contexte de la première église, des tout débuts de l'église. Donc, Acte 11, versets 19 à 21. « Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. » Alors là, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? J'ai dit l'obstacle était un petit peu plus subtil peut-être que dans les deux premiers textes, mais là c'était que les croyants dispersés à cause de la persécution n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Et ça, on pourrait dire, c'est un obstacle qui est culturel, un obstacle qui est religieux, une barrière religieuse qui bloquait ceux qui annonçaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. On pourrait peut-être dire à cet endroit-là que c'est peut-être un manque de vision aussi, en extrapolant un tout petit peu. Cependant, certains osent et franchissent cette barrière culturelle, religieuse, et à nouveau, la croissance revient. Je vous l'avais déjà lu, donc la main du Seigneur était avec eux, ceux qui ont annoncé aussi à ceux qui n'étaient pas juifs, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Donc, on a au moins trois fois ce schéma-là, un problème qui met en péril la croissance de l'Église. Une solution est apportée. Alors, une fois, c'est Dieu de façon radicale. Une fois, ce sont les apôtres qui trouvent cette solution équitable pour distribuer la nourriture. Et là, ce sont quelques téméraires qui osent franchir les barrières culturelles et religieuses. On pourrait appeler ça des évangélistes, quelque part, et la croissance revient. Ça n'est pas un hasard, j'en suis persuadé, dans la parole inspirée, quand on a comme ça des schémas qui se répètent. On peut y voir, justement, l'application concrète du principe de croissance du royaume de Dieu qui est enseigné dans la parabole de Marc 4, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est Dieu qui produit la croissance, c'est pas à nous de la produire. Peut-être notre rôle, c'est d'enlever les freins, d'essayer de discerner ce qui peut freiner la croissance que Dieu veut donner et qui fait partie des principes du royaume de Dieu. Et alors, on pourrait faire une remarque aussi, c'est qu'une église qui grandit, et vous avez peut-être déjà remarqué ça, la croissance, lorsqu'elle est bien gérée, appelle la croissance. Et il y a un phénomène qui fait que si la croissance est bien gérée, eh bien, elle va continuer. On peut appeler ça des fois le cercle vertueux de la croissance, parce que ce qui est sain, c'est-à-dire en bonne santé, grandit. Ce qui grandit change, ce qui change apporte des défis. Les défis nous poussent à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu nous conduit à lui obéir davantage. Et obéir davantage favorise une bonne santé spirituelle et le cycle recommence. Et la croissance s'auto-entretient, on pourrait dire, dans ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de la croissance. Alors, peut-être on va maintenant passer à une autre partie, parce que c'est vrai que dans le Nouveau Testament, vous prenez n'importe quel passage du Nouveau Testament, on est forcément déjà au début de l'histoire de l'Église, et les débuts sont toujours aussi très 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 encourageants. Et voilà, on a peu d'églises qui, par exemple, on n'a aucune église dans le Nouveau Testament qui ont déjà vécu 50, 60 ans d'existence. Ça n'existait pas. Elles étaient toutes aussi, effectivement, dans cette période de démarrage. Mais je pense que, voilà, il faut qu'on en tire quand même quelques principes et qu'on soit encouragé par ça. Et maintenant, l'autre partie de laquelle je voudrais parler, c'est justement cette notion de témoignage communautaire. Alors, si je vous montre ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi, là? Ben, je suis bien caché, alors, hein? Bon, ben ça c'était pour ceux qui la connaissaient pas. Effectivement, c'est un doigt. Un doigt, c'est une partie du corps. Hein, si par exemple, moi je témoigne à un voisin dans la rue ou à un ami, qu'est-ce qu'il va voir? Il voit pas l'église, hein, il voit comme un doigt, une petite partie du corps qui dit moi je crois en Jésus, etc. Mais c'est une toute petite partie. Il peut se dire bon, ben Mathieu il est bien sympathique. On rencontre des gens très très originaux, voilà, qui encore aujourd'hui au 21e siècle croient. Mais tout va changer si un jour cette personne, je l'invite à l'église et qu'elle voit que je suis pas tout seul et que d'autres sont aussi présents, et cette personne peut commencer à se faire une image de ce que c'est que le corps de Christ, l'église. Et d'ailleurs, dans la majorité des conversions, ce qu'on observe en tout cas aujourd'hui, il y a certes témoignage individuel, mais aussi témoignage communautaire. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du témoignage communautaire. Dans combien de témoignages on entend « Eh ben, le jour où je suis arrivé à l'église, j'ai pas forcément compris ce que le prédicateur a dit, ni les paroles des fois un peu bizarres de certains chants ». Mais j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas décrire, un amour, une paix. Et puis j'ai vu des gens qui s'aimaient et qui se comportaient autrement que ce que j'avais connu jusqu'à présent. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du témoignage communautaire, du vécu dans nos cultes et dans nos autres rencontres d'église, dans nos actions d'évangélisation. Il y a toujours l'action en elle-même, mais il y a aussi comment on va se comporter les uns avec les autres. Et c'est des fois plus observé que ce qu'on va dire et proposer aux gens de faire comme expérience. Dans le livre des Actes, le témoignage communautaire est mentionné à plusieurs reprises. Par exemple, en Actes 2, 47, il est dit que l'Église avait la faveur de tout le peuple. Alors, il y a quelques dizaines d'années seulement, on se convertissait parce qu'on cherchait la vérité. On se convertissait en lisant la Bible ou en entendant un message d'évangélisation ou par le témoignage d'un chrétien. C'était très souvent comme ça, on va dire il y a 50, 60 ans. 50 ans. On recevait, qu'est-ce qui se passait après ça? On sentait l'appel de Dieu, on se convertissait. On recevait des études bibliques privées à domicile. Puis quand on était prêt, on rejoignait l'Église. Aujourd'hui, on observe une autre façon, un petit peu d'autres parcours pour les conversions. Ils sont différents, ces parcours, parce que la culture a changé, et d'ailleurs elle continue de changer, et elle change tout le temps. Comment les choses se passent actuellement? C'est plutôt, on connaît un ami chrétien, on l'apprécie, on est ensuite invité à vivre un temps avec l'Église, alors ça peut être un groupe de maison, ça peut être un culte, ça peut être une rencontre de prière, un événement d'évangélisation. Bref, on adhère ensuite à des valeurs communautaires, puis on découvre et comprend qu'il faut faire un choix personnel qui engage toute notre vie. Vous voyez un petit peu la différence avec peut-être les parcours habituels il y a 50-60 ans. Aujourd'hui, on se convertit alors qu'on est déjà dans l'Église. Alors, on n'est pas dans l'Église avec un grand E, mais on est dans l'Église peut-être avec un petit E, le bâtiment. Hein. On se convertit à l'Église avant de se convertir à Jésus-Christ, disent certains. Tandis que c'était le schéma inverse il y a une bonne vingtaine d'années, on se convertissait à Jésus-Christ avant d'arriver dans une Église et de s'y intégrer. Cela, tous les missiologues, hein, ceux qui étudient l'histoire de la mission, l'histoire de la mission de l'Église, l'observent et l'ont fait remarquer. Hein. Notamment les missiologues français aujourd'hui, comme par exemple David Brown, hein, que vous connaissez peut-être, Daniel Lichty et d'autres encore. En fait, l'Église est au cœur de toute façon de sa vocation, hein, lorsque les parcours de conversion se font de cette façon, puisque l'Église est un témoignage en elle-même. L'Église est une évangélisation en elle-même, puisque c'est le peuple de Dieu par lequel Dieu veut aussi se révéler. L'Église est le temple, hein, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Jésus. Elle est en elle-même une évangélisation, on pourrait dire. Alors, c'est ce qui a donné lieu à la définition, au concept d'église missionnaire. Une église qui est missionnaire, c'est une église qui rentre dans la mission de Dieu pour le monde. Des fois, vous avez peut-être lu une église missionnelle. Alors ça, ça vient de l'anglais, puis on aime bien des fois les mots qui viennent de l'anglais. En fait, ça veut dire la même chose. Une église qui est missionnaire, ça ne veut pas forcément dire qui envoie des missionnaires très très loin à l'étranger. C'est-à-dire qui a à cœur simplement cette dimension de la mission que Jésus nous a laissée. C'est une église où chaque activité, chaque réunion, bah du coup, comme on sait qu'on est regardé, qu'on est observé, que quand les gens viennent dans notre église, ils peuvent être touchés, bah il faut organiser l'église pour que nos cultes soient compréhensibles pour des personnes qui viennent, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent trouver des choses qui entrent en résonance avec leurs besoins, mais que ce soit le culte, que ce soit le groupe de maison, que ce soit une rencontre de prière, etc. Nos rencontres sont pour ceux qui ne font pas encore partie de l'Église. Et voilà, on s'attend à ce que des non-chrétiens soient présents, et on prie même pour ça. Et cela ne veut pas dire qu'on oublie du coup les chrétiens qui sont déjà engagés avec le Seigneur depuis de nombreuses années. C'est les deux. L'Église, c'est un lieu où on vit les deux, où tout le monde est le bienvenu. Les chrétiens qui sont déjà engagés depuis de nombreuses années, comme ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors, quelques mots de conclusion. Déjà, et puis après je vous propose qu'on ait peut-être un temps d'échange, et puis on aura un temps de prière aussi. Alors, lorsqu'une église est en bonne santé, je le crois, elle est missionnaire. C'est un des signes de la bonne santé d'une église. Et si la croissance est un principe du royaume de Dieu, comme on l'a vu, alors la croissance en maturité chrétienne et la croissance en nombre est un fruit de cette bonne santé. Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut. Et Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors on peut vraiment s'appuyer sur ses promesses, être encouragé à aller de l'avant, prendre part aussi à la mission de l'Église que le Seigneur nous inspire, les formes d'aujourd'hui pour rejoindre nos contemporains, et puis aussi les formes de nos rencontres, lorsque nos contemporains rejoindront nos rencontres, qu'ils ne soient pas choqués, mais au contraire touchés par la grâce. Amen. Je vous propose du coup maintenant, voilà peut-être un temps d'échange par rapport à ce thème de la croissance de l'Église. Vous avez peut-être des réactions, des questions. Je suis allé un petit peu vite. Dans le livre des Actes, il n'y a pas d'enseignement, évidemment, sur la croissance de l'Église. On voit plutôt une Église qui grandit. Donc il faut en tirer des leçons et tirer des principes pour voir ce que ça pourrait donner aussi aujourd'hui dans notre vie d'Église. Et d'ailleurs, je pense que nulle part dans le Nouveau Testament, on a un cours sur la croissance de l'Église. Il faut le déduire de ce qu'on peut lire ici ou là. Est-ce que vous avez... Oui, Madeleine.
Les courbes, là.
Oui.
Vous êtes là depuis un moment. Où est-ce que vous nous mettez ?
Dans la courbe ? Bon, alors, je pense qu'en plus, en ce moment, on vit franchement des temps particuliers. C'est vrai que c'est... On vit des temps particuliers, oui, en ce moment. C'est vrai que c'est pas forcément évident, tout ce qui est action de témoignage. Hein. On a pu maintenir certaines choses. On est chacun témoin là où Dieu nous a placés. C'est vrai qu'après, le témoignage communautaire, hein, en ce moment, a été vraiment difficile, même la communion fraternelle entre nous. Alors... Bon, de toute façon, il faut. Moi, je pense que l'église de Mulhouse est plutôt une église qui est stable.
Mais là, elle descend tout de suite.
Hein. Ouais. Alors bon, ça c'est mon schéma. Je pense qu'une église, quand elle est stable, le risque, c'est quoi? C'est un peu de ronronner. C'est de se dire, voilà, on a atteint une taille. Alors, pour prendre celle de l'église de Mulhouse, on a atteint une taille de 150, qui est déjà, voilà, c'est déjà une grande église en France. Et depuis longtemps, voilà. Bon, alors après, c'est pas parce qu'on reste au même nombre qu'on n'a pas grandi, parce qu'il y a des gens qui partent, et puis il y a quand même de nouvelles personnes qui arrivent. Et puis après, il y a aussi des personnes qui sont, on va dire, formées aussi dans l'Église, qui sont envoyées, qui sont une bénédiction ailleurs, etc. Avoir peut-être une conception effectivement large de la croissance, mais c'est vrai que... Alors bon, il y a eu des agrandissements, hein, agrandissement des locaux quand même. Ça, c'est quand même... si on a grandi, c'est qu'il y avait un bon problème. Hein, c'était qu'il manquait un petit peu d'espace. Je pense que le risque pour une église stable, c'est du coup de se contenter de fonctionner seulement. Voilà. Et de perdre, justement, la vision pour ceux qui se perdent, en fait. Perdre la vision pour ceux qui se perdent, ça fait beaucoup de fois le mot « perdre hein, » dans une phrase, mais pour ceux qui se perdent autour de nous. Et je pense que oui, on a besoin souvent de revenir à cet ordre missionnaire que Jésus laisse à son Église et qui est très très solennel à la fin de l'évangile de Matthieu, de l'évangile de Luc, de l'évangile de Marc. Hein, on a cet appel à la mission. Dans l'évangile de Jean, c'est peut-être un peu moins évident, mais oui, je pense que alors une Église qui est stable et qui se contenterait d'exister pour elle-même et avec la façon de faire qu'elle a toujours connue, les personnes qu'on a toujours connues, court inévitablement ce risque de se replier sur elle et puis de finir par décliner. Et plus on est alors après sur cette courbe descendante, plus c'est difficile de revenir. Hein. Vous voyez, si on est là, on a un tout petit parcours à faire pour retrouver une nouvelle croissance. Si on est là... c'est ça qu'il faut refaire. Hein. Voilà. J'ai un tout petit peu, avec l'association Baptiste et la communauté d'apprentissage pour le développement des églises, je me suis un tout petit peu intéressé à la question de la revitalisation des églises. Et c'est vrai que plus une église a... Là, en fait, c'est quoi ça? Là, on est une église... Quand on est en croissance, c'est une église qui est centrée sur la mission. Là, on pourrait dire que c'est un axe centré sur la mission. Et qu'est-ce qui se passe quand on est là? On est centré sur la mémoire. Et donc, on dit « Ah, c'était bien avant, à l'époque, voilà, etc. » Et bien, quand on commence à entendre ce genre de discours, je ne dis pas que c'est la catastrophe, mais on court un risque qui est finalement de ne pas changer, de se replier, de rester dans une seule façon de faire, ne plus voir les personnes qui sont autour de nous, la société qui a changé, etc. Et du coup, se retrouver en décalage et avoir un témoignage qui n'est plus du tout pertinent, qui ne parle plus à ceux qui nous entourent. Mais moi, je me garderais bien de dire où est-ce qu'on en est. Voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est d'être là. Voilà. Pour ça, je pense qu'il faudrait un regard... je l'ai encore un peu, ce regard extérieur, effectivement. Non, je pense que l'église de Mulhouse, c'est plutôt une église stable. Après, dans la crise, on a su, avec le Covid, etc., je pense, trouver quand même des aménagements, et d'ailleurs assez rapidement, mais je pense qu'il faut encore qu'on en trouve d'autres. C'est pas satisfaisant d'être 50 le dimanche matin au culte sur inscription, avec une semaine sur deux, un culte bis, avec une petite trentaine de personnes. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Il y a un an et un mois, on était 170 au culte, hein, régulièrement. Hein. Il y a des fois Thomas et Jean-Philippe qui comptaient. Je me souviens de certains cultes, on a frisé les 200. Ouais, c'était assez surprenant. Et puis chaque dimanche, il y avait 5 ou 6 nouvelles personnes. On n'arrivait même pas à toutes les saluer et même à les identifier, tellement on était nombreux. Alors peut-être vous avez entendu parler, parce que c'est pas du tout un secret, mais on a le projet de faire 2 cultes le dimanche matin. Je vous le dis, ça c'est peut-être, voilà, c'est pas forcément pour une croissance de l'église, parce que même avec 2 cultes à 50 personnes, on met pas tous les membres. Hein. Mais ouais, on est en train de réfléchir à ça, pour peut-être avant, disons, on souhaite avant la fin de l'année scolaire, on va voir si c'est possible, quoi. Après, on n'est pas borné non plus là-dessus. Hein. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais oui, effectivement, ouais. On vit quand même là des temps particuliers. Après, au niveau du témoignage, oui, il y a des choses à faire, mais ça viendra en son temps, je pense aussi. Hein. Ouais. Oui.
Le premier texte que tu as lu de l'agriculteur qui met en terre sa semence.
Oui.
Et après, qu'il dorme, qu'il elle croit.
Oui.
Il y a quand même le premier geste à faire,
oui,
que l'agriculteur, que nous sommes chacun, mette en terre, sème,
oui,
la semence.
Oui, semer, oui. On ne peut pas s'attendre à moissonner si on ne sème pas, hein, du verbe semer. Oui, ouais. Ouais, c'est juste, hein. Il y a quand même le fait de semer et même d'arroser, du coup, hein, puisque Apollos arrose, hein, mais Dieu fait croître. Et ça, c'était quand même très important, parce qu'il faut que c'est ça qui est fondamental. Parce que sinon, on va se rendre malade, on va culpabiliser, on va se dire, c'est nous qui ne faisons pas croître. Et ça, on ne peut pas, en fait. Peut-être il y a des obstacles, effectivement, comme j'essaie de le dire, il faut essayer de lever les freins à la croissance, lever les obstacles, si on en identifie. Et puis, ouais.
Dans arroser, il y a aussi le mot endurance par rapport aux gens de la communauté, d'être patient, d'avoir l'endurance, de continuer cette relation avec les autres personnes, de ne pas arrêter quand on,
oui,
sent que c'est compliqué.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ce mot endurance avec arrosage.
Oui, ok, oui, oui. Oui, l'arrosage, c'est effectivement l'endurance, c'est de se dire, ouais, j'ai pas fait tout mon travail entre guillemets de disciple quand j'ai simplement une fois lancé une phrase où il y avait le mot Dieu dedans, quoi. Ça y est, j'ai semé, quoi. Non, non, il faut des fois y revenir. Oui, tout à fait. Ouais.
Je pense aussi ce qui est important pour faire croître, c'est prier.
Bien sûr.
C'est prier pour les jeunes convertis,
ouais,
parce qu'ils en ont besoin, ils sont au début de leur vie, et puis c'est comme des bébés, ils ont besoin de nourriture, d'abord du lait, après des nourritures plus consistantes,
hein. Mm-hmm.
Et c'est comme ça qu'ils grandissent, quoi. Mais je pense que les arroser avec la prière, c'est important.
Mm-hmm. Ouais.
Et c'est ce que je pense que l'église primitive faisait, hein. Ils mm-hmm. étaient tous les jours dans le même lieu et ils priaient.
Une petite phrase que j'aime bien, c'est c'est plus important de parler de nos amis à Dieu que de parler de Dieu à nos amis. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. D'ailleurs, même quand on, pour le témoignage, en tout cas le témoignage verbal, parce qu'il y a aussi tout le témoignage non verbal, hein, qui passe pas par des mots, mais en tout cas pour le témoignage verbal, très rapidement, on se rend compte aussi de la limite des mots. On peut être tout content de dire quelque chose, d'une vérité de l'évangile qui nous réjouit, etc. Mais la personne en face, elle est là. Des fois, elle ne comprend pas. Il lui manque des fois des éléments pour pouvoir comprendre même ce qu'on dit. Ou des fois, ça passe complètement à côté. Hein. C'est plus important, effectivement, de parler à Dieu de nos amis qui ne le connaissent pas encore, que de parler de Dieu à ces personnes, et particulièrement dans nos familles. Parce que dans nos familles, on n'est des fois pas les mieux placés, hein, pour parler à une cousine, à une tante, etc. Parce qu'il y a un petit peu cette idée, mais c'est qui celui-là pour me... Toujours, il y a la suspicion qu'on veut faire la leçon, etc. Parce que on veut... Voilà. Mais par contre, prier pour les gens de sa famille. Ça, c'est sans modération, quoi. Oui, Joël, oui.
Je me demande s'il y a des personnes
par exemple, ne viennent pas à l'église, mais qui regardent les cultes et qui s'attachent à une église par ce moyen. Je ne sais pas si on peut le voir.
Oui.
Mais
oui.
Je veux dire, c'est parce qu'avant, on n'entendait pas tellement des prédications sur Internet de l'église. Et je me demande s'il y en a qui... C'est pour eux, c'est une occasion aussi de... Un autre moyen de commencer à... Voilà.
Oui. Oui, c'est juste. Et puis le site Internet, il est là pour nous, effectivement, mais il est là aussi pour les autres, hein. Pour tous ceux qui nous cherchent, pour tous ceux qui vont taper quelques mots-clés sur Google, ils peuvent tomber sur notre site et du coup s'intéresser un petit peu à l'enseignement qui est donné, etc. Oui, je pense qu'il y a des gens qui suivent des églises uniquement par Internet. Par contre, c'est très dommage, parce qu'il leur manque la pratique de la vie d'église. Ils ont un enseignement, alors peut-être ils nourrissent leur foi, ils peuvent grandir dans la foi de façon individuelle, mais je pense qu'à un moment donné, pour continuer à grandir, on n'a pas forcément besoin de messages toujours de plus en plus excellents, on a besoin de se confronter à celui qui ne pense pas comme moi, au frère ou à la sœur, je ne regarde personne, qui est pénible, etc. Et là, on va apprendre des choses et on va grandir. Alors que la personne qui est derrière son ordinateur, elle peut avoir le meilleur prédicateur du monde et suivre ses messages. À un moment donné, elle va quand même bloquer dans sa croissance parce qu'il y a des choses qui s'apprennent dans les relations fraternelles et dans la vie de l'Église. Et d'ailleurs, et pour mettre en pratique sa foi, comment on peut mettre en pratique sa foi si on reste derrière son écran d'ordinateur? C'est impossible. Tous les impératifs qu'on lit dans la parole de Dieu avec les uns les autres supposent qu'on fait partie d'une église et qu'on peut mettre en pratique tous ces les uns les autres qu'on a dans les épîtres de Paul notamment. Ouais. Mais c'est un danger aujourd'hui, hein, l'église individualiste, individualisée presque. Et puis en plus c'est facile parce que quand du coup même un très très bon enseignant, si un jour il dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on passe à un autre. Oui.
Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que comme il y a ces messages sur Internet, comme il y a des cultes sur Internet, ça permet quand même à des personnes qui sont en recherche d'entendre l'évangile.
Oui. Oui, tout à fait. C'est un témoignage, c'est important, c'est très important aujourd'hui pour une église d'être présente. Ouais. Aussi dans le virtuel, hein, dans le monde numérique d'Internet. On a un compte Instagram aussi qu'on a ouvert là il y a quelques mois maintenant, deux ou trois mois, et on poste aussi tous les dimanches, on poste une petite phrase, une petite citation qui résume un peu la prédication. Et puis voilà, c'est une façon de semer. Voilà. Et quand un certain nombre de personnes vont chercher des mots-clés, sur des moteurs de recherche ou sur des réseaux sociaux, ils peuvent peut-être tomber sur notre site. Et puis, du coup, après, mais il y a aussi, du coup, une église derrière toutes ces citations, ça m'intéresse, je voudrais en savoir plus, etc. Ouais, ouais. Et puis, même pour ceux qui sont déjà chrétiens, quelqu'un qui est déjà chrétien, qui arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, il ne va pas regarder l'annuaire, ça n'existe plus maintenant. Disons, tous les annuaires, ils sont sur presque numérique. Hein. Bon, ça existe encore, hein. Mais et puis il va regarder, hein, tiens, c'est quoi les églises qui a pas très loin de chez moi, je vais voir laquelle je voudrais rejoindre, etc. Ouais. Oui, Adeline.
Oui, je suis d'accord avec toi, ce que tu as dit avant sur le relationnel dans l'église, qu'on a besoin de vivre l'église. Je voudrais juste apporter un petit complément, une nuance, c'est que le relationnel, il se vit pas que dans l'église. Enfin,
non.
Il y a aussi toutes nos relations ailleurs, où il faut aussi qu'on montre qu'on est chrétien, et puis... Ou là aussi, enfin, je veux dire, c'est pas que dans l'église qu'on grandit, quoi.
Non, oui. Non, bien sûr, oui. Ouais, oui, c'est juste. Non, bien sûr, ah, ouais. Tout à fait. Ah, ouais. Non, c'est bien sûr. Ouais.
Oui, c'est dans l'église, il y a des belles choses, il y a des choses qu'on trouve pas ailleurs, mais des fois, c'est aussi un peu un cocon. Et puis je sais que moi, perso, j'ai aussi beaucoup grandi en étant confrontée à des... Enfin, en voyant le Seigneur agir en moi dans des situations où c'était pas pareil, quoi. Où il n'y avait pas d'église, pas de chrétien, puis ça permet aussi la croissance, quoi. Bon, c'est peut-être pas le sujet, mais voilà.
Non, non, mais c'est le sujet. Le sujet, c'est la croissance de l'Église, oui. Ouais. Oui, le Seigneur utilise tout pour nous faire grandir. Ouais. Ça, ouais, c'est sûr. Ouais. Ok. Bah, écoutez, merci. Ben, je pense qu'on a de quoi alimenter un petit moment de prière maintenant. On va du coup conclure par la prière. Je vous laisse prier.